De la vie, nous allons parler ce soir en compagnie de nos deux invités, de la vie qu'on donne, de la vie qui permet justement l'éclosion, avec Marie Richeux qui publie un très beau roman intitulé « Sage-femme » et avec une sage-femme dans tous les sens du terme, Chantal Birman, qui est l'héroïne d'un nouveau film documentaire de Aude Pépin qui s'intitule « À la vie » et qui sort sur les écrans. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera, figurez-vous, avec Janis Joplin, « Summertime ». Marie Richeux, vous publiez un livre qui s'intitule « Roman », qui est une sorte de déambulation dans les mémoires de votre propre généalogie familiale, qui est une enquête approfondie, qui est une réflexion aussi. C'est un livre tissé dans tous les sens du terme. D'ailleurs, l'artiste Sheila X figure au centre de ce roman. L'art du tissage, elle le connaît, Sheila X. mais vous aussi, parce que dans les entremêlements des fils de la mémoire, pas seulement la vôtre, mais de toutes vos ancêtres féminines, il y a ce même tourment, cette même question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être mère ? Et donc je vais commencer par vous poser une question qui est, que vous est-il arrivé quand vous saviez intuitivement que vous alliez devenir mère, que vous étiez enceinte, on dit d'ailleurs tombée enceinte, mais au moment où le test grossesse vous a confirmé votre intuition, qu'est-ce qui s'est passé en vous ?
En tout cas, ce qui se passe pour la narratrice dans un chapitre du livre Sage-Femme, c'est qu'elle dit qu'elle vit son trip extatique le plus puissant et qu'elle voit son cœur, vraiment l'organe de son cœur au sol sur le carrelage de la salle de bain qui bat et qui vit quelque chose de plus grand que ce qu'elle pensait jamais pouvoir vivre. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de très vertical qui se passe, qui est que, à mon sens, c'est vraiment un rendez-vous avec la vie et avec la mort. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acuité, une brillance de cette minute-là, qui, j'ai trouvé, pour en revenir à mon expérience vécue, rejoint celle des jours de deuil. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une manière d'être particulièrement vivante à ce moment-là, qui est peut-être celle qu'on a d'être particulièrement vivant quand on doit dire au revoir à quelqu'un à jamais. Et j'ai trouvé que c'était un vertige incroyable. Il se trouve que ce moment-là, il arrive pour la narratrice encore une fois, porté par deux orages. L'orage d'une nuit d'été, où elle a peur de mourir, foudroyée, près des montagnes, dans le Tarn, et qui lui rappelle un orage sans pluie, sans éclair, sans rien, qui est la nuit du 13 novembre 2015, où elle a eu peur de mourir pour d'autres raisons. Et peut-être pour cette femme-là, il y a quelque chose de vraiment très très précipité dans le fait que avoir peur de mourir fait le lit de pouvoir donner naissance.
Il y a aussi autre chose, je crois, à l'intérieur de la texture de ce nouveau roman, Marie Richeux, c'est peut-être la chose incroyable que une femme puisse devenir mère, comme si c'était quelque chose d'illimité, d'impossible, de difficilement pensable.
Absolument.
Et à l'intérieur de votre roman, vous dites, avec la grâce de votre écriture, des choses que les mères ressentent, je pense, toutes, ou que les futures mères ressentent toutes, mais qu'elles n'osent pas formuler.
Il est évident que la narratrice, au début du roman, elle n'en revient pas au sens figuré comme au sens propre d'être devenue mère, parce qu'il y a quelque chose d'impossible, d'impensable. C'est pour ça que c'est très important que ça reste un choix. Et dans le film dont il sera plus tard question avec Chantal Birman, qui dit « Je suis prête à mourir pour l'avortement », je trouve que c'est une phrase sidérante, parce que ça dit le combat essentiel est à mener jusqu'au bout pour que les femmes puissent choisir ou non de devenir mère. En dehors de ce chapitre-là, quand en effet, dans son corps, dans sa tête, on devient mère, je crois, après, je ne sais pas si on peut en faire une expérience universelle, mais je crois que ça recompose tout et que c'est plus ou moins facile à accueillir, en fait.
On devient mère, pour vous, Marie Richeux, à partir du moment où on vous dit que vous allez devenir une mère ?
Je ne sais pas trop. Franchement, je crois que c'est vraiment l'histoire de chacune des histoires de chaque femme, en fait. Je pense que tu peux devenir mère parce que tu lis deux barres sur ton test de grossesse, parce que t'accouches, parce que t'as un ventre rond, ou parce que peut-être ton enfant, il a 10 ans et qu'enfin, ça y est, t'as réussi à devenir mère. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'horaire pour ça, quoi. On va dire, le plus tôt ça se passe, le mieux c'est pour les enfants et pour les mères, mais c'est l'histoire de chacune là-dessus.
En tout cas, de cet étonnement, de cette surprise existentielle, vous parlez à l'intérieur de ce texte qui s'intitule « Sage-femme ». Je me souviens d'un temps pas si lointain où le féminisme portait à son acmé les femmes qui justement choisissaient de ne pas être mères. Et je vous propose d'écouter la voix de Simone de Beauvoir qui va expliquer sa formule « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est une archivina du 6 avril 1975, c'était dans l'émission Questionnaire et c'était dans l'émission de Jean-Louis Servan-Schreiber.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles », et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
Devenir mère, est-ce naturel, Marie Richeux ?
Non, je pense pas.
Ou civilisationnel ?
Non, je pense pas. Enfin, je sais pas ce que vous entendez par civilisationnel, mais naturel, je crois pas.
Construction.
Bah, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses du corps naturel qui se passe naturellement autour de la maternité, et encore que ces choses-là, elles peuvent être empêchées, elles peuvent être gênées, elles peuvent être plus ou moins faciles pour chacun des corps de chacune des femmes, c'est certain. Après, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est peut-être la manière dont vous avez lancé l'archive de Simone de Beauvoir, à savoir, fut un temps, le féminisme revendiquait un endroit de liberté pour les femmes de ne pas l'être, et je crois que c'est très important qu'il continue de le faire. C'est extrêmement important qu'il continue, le féminisme, de considérer qu'il y a une liberté à ne pas être mère, comme il y a une liberté à le devenir si on le souhaite. Peut-être que les choses, ce qui bouge un tout petit peu dans un féminisme plus contemporain, c'est que la question de la maternité, elle est regardée aujourd'hui un peu différemment. Il y a beaucoup de paroles, voire de textes et de témoignages qui lisent l'expérience de la maternité, ce qui va avec le prisme du féminisme. Et ça, je trouve que c'est un âge passionnant à vivre, en fait.
Dans votre roman, qui s'apparente de temps en temps à un récit initiatique, Marie Richeux, par certaines pages, il y a le déclenchement d'une mémoire, pas seulement la vôtre, mais aussi le déclenchement d'une mémoire et d'une recherche vers vos propres ancêtres, les femmes d'avant. Et vous parlez de la maternité. Et votre livre parle beaucoup du 19e siècle, du début du 20e siècle, de ce temps honni où il y avait des femmes qui ne pouvaient pas avorter et qui devenaient ce qu'on appelle des filles mères. Pourquoi votre propre maternité a-t-elle déclenché une recherche vers les filles mères du passé familial ?
Je dirais que c'est l'écriture du livre qui a déclenché cette recherche. C'est plus à un moment donné d'avoir senti que le texte il s'imposait et que quelque chose avait besoin d'être travaillé, mais vous le disiez, par le tissage de la poésie et de la littérature, pas que par le truchement de recherches généalogiques comme je l'aurais fait dans ma chambre sans en parler à personne. Finalement, c'est à un moment donné où j'ai eu envie d'écrire que cette histoire-là, elle est venue, et elle est venue à la faveur de plein de choses, probablement de devenir mère moi-même et d'avoir une fille, ça c'est certain, mais aussi de faire face un jour à une statue de la Vierge très mystérieuse et très étrange, comme il arrive à la narratrice au début du livre en Lozère, mais encore probablement aussi la découverte des courtes pointes, qui sont ces mystérieuses couvertures tissées à l'effigie de la Vierge pour part, qui ont été trouvées au 19e siècle dans le grenier de l'Hôtel Dieu à Reims, et encore peut-être l'idée d'un peuple de femmes, mais aussi d'un peuple d'indigents, puisque tout part de l'Hôtel Dieu à Reims, et que qui on soigne là-bas, des gens pauvres ou des femmes qu'on veut cacher parce qu'elles ont enfreint la morale patriarcale et religieuse, et qu'il y avait quelque chose dans ce destin des filles mères qui, au-delà de mes aïeuls, en fait, m'intéressait à penser aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles avaient fait, ces filles mères? Elles avaient eu des enfants en dehors du mariage, elles ne pouvaient pas avorter, ou alors le mystère est laissé complètement entier, elles ne voulaient pas avorter. Les deux cas de figure sont possibles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles dérangeaient l'entièreté de la société à ce moment-là, et il n'est pas très loin le temps où elles dérangeaient l'entièreté de la société, d'ailleurs.
Je vous propose d'écouter la voix d'Annie Ernaux qui va parler de l'histoire de sa mère. C'est une archive INA du 19 août 2018. C'était au micro de Christine Gonzalez.
C'est ma mère parce qu'elle a une histoire qui forcément dont elle ne parle pas, mais que je peux comprendre par d'autres biais, par d'autres récits, hein, bien sûr. C'est que elle a quitté l'école à 12 ans et demi pour travailler à l'usine, une usine de margarine, Astra, hein, existait déjà à Ifto, et ensuite elle a dans une usine de corderie, fabrication de cordes, où elle rencontrera mon père. Mais ce sont des usines mixtes, et donc il faut vraiment beaucoup de volonté, il faut aussi un quant à soi, etc., pour ne pas être en butte aux avances masculines. C'est vraiment difficile. Hein. Je le sais par d'autres récits. Et pour elle, c'est vrai que le sexe, ce sera la perte. Et c'est vrai qu'elle a raison. C'est-à-dire que la fille-mère, autrefois, bon, il faut penser à Violette le Duc, la bâtarde. C'est ça. Donc, elle vit avec toujours cette peur. Sa peur, c'est vraiment que je tombe, comme on disait. On dit peut-être plus maintenant, tomber enceinte, et donc être obligée de me marier, et donc cesser d'avoir l'avenir qui est arrêté. Ah, mais ma mère est une féministe avant l'heure. C'est évident. Elle a toujours détesté faire la cuisine. Voilà. Et c'est mon père qui s'en chargeait. Donc oui, elle pensait que une femme, les enfants, c'était un peu le plus tard possible, quoi.
Nous venons d'entendre la voix d'Annie Ernaux qui, ô combien, a su parler de sa mère et d'une période qui n'est pas si ancienne. Marie Richeux, dans son roman, raconte comment, finalement, l'annonce de l'heureux événement, puisque c'est comme ça qu'on appelle aussi la naissance, va s'accompagner à l'intérieur de sa mémoire d'une recherche sur ses aïeules, dont certaines furent réprouvées. On les appelait donc les filles-mères. Et pour vous, Chantal Birman, vous qui êtes l'héroïne de ce film documentaire formidable qui s'appelle « À la vie », comment a commencé cette vocation de sage-femme ? Est-ce que c'est votre propre mère qui vous a conduit à vouloir donner la vie ?
Je crois que c'est plus profondément une espèce de mouvement intérieur qui est parti en fait du social. C'est-à-dire que, bon, moi je suis issue d'une famille extrêmement modeste, mais où la seule valeur était la culture. Je n'ai jamais souffert des conditions sociales, même si effectivement à la lumière de ma vie, je me rendais bien compte que vivre à 6 dans 25 mètres carrés, ça devait pour mes parents, ça a dû être quelque chose de terrible, d'avoir pas évidemment de salle de bain, les toilettes sur le palier. Bon, moi j'ai pas souffert de ça. Alors ça paraît étrange, mais voilà, je veux juste dire que la seule richesse de ma famille, c'était la culture. Mais là, par contre, il y avait des livres au milieu de ces voilà. Et moi, j'ai de cette petite surface. Et du coup, on avait des espaces en l'air, dans les airs, etc. Les discussions, et ça c'était très grand. C'était des super mètres carrés, quoi. Voilà. Donc, je dirais que c'est une réflexion. Moi, je suis partie d'une réflexion autour de la vie. Et justement, votre livre, si je peux me permettre, est-ce que j'ai le droit de...
Mais vous avez tous les droits.
En tant que sage-femme, évidemment, il y a des choses qui m'ont interpellée. D'abord, ça je suppose que je suis pas la première à vous le dire, évidemment qu'au fur et à mesure qu'on lit votre livre, il y a les filles légitimes, et effectivement ça devient les filles illégitimes, hein, dans votre livre, c'est obligé, hein, qu'on pense à ça. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, parce que le vocabulaire qui est donné autour des maternités, etc., sont des vocabulaires qui font réfléchir. Par exemple, vous citez l'enfant né sans vie. C'est toujours la déclaration aujourd'hui qui est faite.
Et alors, faut expliquer dans quel contexte, Marie, vous parlez de ces enfants nés sans vie. Ce sont des filles mères. Vous avez retrouvé
c'est des archives, en fait.
Les archives,
hein.
C'est des mentions, et ces filles mères. Donc les archives stipulent que ces filles mères ont donné lieu, enfin ont donné naissance à des enfants. Il y a les enfants vivants. Et puis, d'ailleurs, vous nous faites part de votre stupeur quand on lit votre livre. Et puis, il y a des filles mères qui donnent naissance à des enfants nés sans vie. Mais ça veut dire quoi, nés sans vie ?
Mais alors, c'est pas que des filles mères. En fait, c'est le fruit de recherches dans les archives, en l'occurrence les archives municipales de Reims, où je faisais des recherches et où je mets en scène cette enquête-là dans Sage-Femme, qui est une femme qui fait des recherches, c'est aussi l'idée d'une quête et d'un mouvement, puisque ce que vous dites est très beau, l'idée d'un chemin de pensée et de plein de mètres carrés, de plein d'espace. Je pense que c'est aussi l'histoire d'une femme qui met beaucoup d'espace dans sa vie d'un seul coup. Et dans les archives, eh ben, en effet, il y a au bout de la ligne, peut-être, je sais pas, moi, Georges ou Octave ou Odette.
Alors, nous parlons depuis le début de cette émission de l'exclusion de facto sociale, politique, de la communauté, des hommes, de ces filles mères au 19e siècle, puis au 20e siècle. Il y a aussi un tabou dont on parle peu. Marie Richeux vient de parler des enfants nés sans vie qu'elle a trouvés dans les archives de l'hôpital de Reims. Mais il y a aussi toutes ces femmes qui ont accouché d'enfants dont elles pensaient qu'ils étaient vivants et qui vont être, alors je crois que c'est l'acception par laquelle on les nomme, des enfants morts-nés. Et là, je pense particulièrement à un texte bouleversant de Marguerite Duras, qui a mis, je crois, une bonne trentaine d'années à parler de cet enfant qui est né mort-né. C'était dans un hôpital tenu par des religieuses, et les religieuses ont refusé de lui présenter l'enfant qu'elle n'a pas vu. Et ça, est-ce que aujourd'hui, pour vous, Chantal Birman, ça reste un sujet de réprobation et de silence dans notre société ?
Dans la pratique, je veux dire ma pratique de sage-femme, la perte d'un enfant, c'est évidemment un chagrin tellement immense, immense. Et on peut rester un moment dans la fascination de ce qui vous arrive, ça veut dire de ne pas pouvoir bouger de l'endroit où on est. Donc, entre le fait de mettre au monde cet enfant mort-né, même si l'annonce aujourd'hui du fait de l'évolution des techniques est pratiquement tout le temps faite au préalable, et que souvent la femme a bénéficié quand même d'un dialogue, souvent avec une psychologue ou une sage-femme, enfin bon, mais reste que entre le moment où l'enfant naît et le moment où elle peut le voir, des fois il y a un temps, là encore. Il faut que la mère accepte ça, ou le demande. Il y a des femmes qui vont le demander. Moi, des fois, je leur dis, est-ce que je peux le mettre sur votre ventre ou au moment où il naît. Donc, il y a ce moment de ce trou que va être la prise de conscience de la mort de l'enfant. Et ça peut mettre un peu de temps.
Votre métier a beaucoup évolué, Chantal. Je vous propose d'écouter la voix d'une spécialiste de l'évolution de votre métier, qui est citée d'ailleurs dans le livre de Marie Richeux et remerciée. Elle s'appelle Nadine Lefaucheur et elle va parler de l'évolution du statut de la sage-femme dans l'histoire. C'était le 25 décembre 1995 et c'était au micro d'Anne-Lise David.
À la fin du XVIIIe siècle, on peut voir, disons, l'effacement déjà des sages-femmes dans une sorte de, enfin, ce qu'on peut appeler une réaction masculiniste au XVIIIe siècle, hein, et qui, quand même, ne s'est pas tellement atténuée au XIXe siècle. C'était plutôt la relative indépendance des sages-femmes qui était anormale, si on regarde l'état global de la société. Donc les chirurgiens étaient quand même plus instruits, ils avaient plus de diplômes, même s'ils avaient quelquefois moins de pratiques, et c'était quand même plutôt la position des sages-femmes qui était anormale, je dirais, pour l'époque, bien sûr. Aujourd'hui, ça nous paraît différent. Alors le triomphe de l'hôpital, eh bien, c'est le triomphe sur la fièvre puerpérale, le triomphe sur les microbes. C'est Pasteur, c'est d'abord, bon, c'est l'hygiène, bien sûr, dans un premier temps, c'est l'antisepsie, et puis c'est l'asepsie. Et l'hôpital, pour ce qui concerne la maternité, qui était quasiment réservée aux filles mères, enfin, au début du 19e siècle, si j'ai quelques chiffres, chiffres pour la maternité de Saint-Étienne, par exemple. 68% des femmes qui accouchaient à la maternité en 1835 étaient des filles mères. À la veille de la Première Guerre mondiale, ça n'était plus qu'à peine 50, un tout petit peu plus de 50%. 1921, ça n'est plus que 34%. Et à la veille, au lendemain plutôt de la Deuxième Guerre mondiale, 1946, ça n'est plus que 14%.
Et aujourd'hui, c'est combien de pourcentage, Chantal ?
Alors, si on appelle les filles mères toutes les femmes qui ne sont pas mariées, c'est la majorité. Hein.
Non, mais je parle de l'accouchement à l'hôpital ou de l'accouchement à domicile.
Alors, on est autour de 1 à 2% d'accouchement à domicile aujourd'hui en France.
Donc ça se perd énormément. Et d'ailleurs, dans le film dont vous êtes l'héroïne, on a l'impression que par moment, vous le regrettez peut-être un peu, ce temps d'appropriation de ce moment si intime qui pourrait aussi se passer à la maison.
Non seulement ça pourrait se passer à la maison, mais le basculement, c'est ça qui est très intéressant, dans les années 50, où il y avait un maximum d'accouchements à domicile, c'est fait essentiellement sur des problèmes de territoire. C'est-à-dire que le domicile était le territoire de la sage-femme jusqu'à ce moment-là, et le médecin avait son territoire à l'hôpital. Ça veut dire que la femme sortait de son nid pour aller accoucher. Spontanément comme ça, quand vous regardez n'importe quel animal, c'est très très rare qu'un animal sorte de son terrier ou sorte de sa caverne ou sorte de ce que vous voulez pour aller mettre au monde un enfant à l'extérieur. Donc c'est pas forcément complètement naturel de sortir de chez soi pour accoucher. C'est quand même le lieu, le domicile où on a fait le bébé. Il pourrait y avoir une continuité dans cet espace-là. Alors en même temps, que je dis ça, je ne peux pas ne pas dire que l'évolution des techniques obstétricales et la diminution de la mortalité maternelle va évidemment entraîner que c'est à l'hôpital que ces techniques ont été mises en place. Mais la pathologie pour laquelle les techniques sont nécessaires correspondent entre, on va dire 20 à 30% des accouchements. Ça veut dire que 70% des accouchements sont à l'hôpital et sont physiologiques. Et c'est ça qui est absolument dingue, c'est-à-dire que pour finalement correspondre aux besoins de l'hôpital, on va les pathologiser, c'est-à-dire, je dis bien tous aujourd'hui, pour répondre aux critères hospitaliers actuels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va médicaliser ces accouchements, on va déclencher ces femmes, on va péridurhaliser tout le monde, mais pas méchamment. Et de toute façon, quand vous faites 4 accouchements par sage-femme, ce qui est à peu près le taux actuellement, plus les ordinateurs, les sages-femmes ne peuvent plus accompagner les femmes. Je trouve que c'est un drame que les femmes travaillent aujourd'hui, et les grands-mères aussi, d'ailleurs, et donc elles participent à la richesse de la société. Et je pense qu'elles ont droit, elles font 2 enfants en moyenne par femme, un petit peu moins d'ailleurs en ce moment. Elles ont le droit à ce moment, pour 2 fois dans leur vie, d'être accompagnées. Voilà, je le pense vraiment. Et je pense que ce défaussement sur l'individu femme est un scandale social. C'est-à-dire qu'on fait porter aux mères, et là c'est un contre-coup du féminisme, c'est-à-dire on leur dit, vous aviez la contraception, vous aviez l'avortement, maintenant que vous l'avez, le gosse, êtes responsable.
C'est des contre-coups quand ça arrange tout le monde, parce qu'en réalité c'est surtout un coût économique, c'est-à-dire que même si féminisme n'était pas passé par là, je pense que quand on a envie de ne pas mettre les moyens pour en effet accompagner des femmes dans un moment si important, qui, comme vous le dites si bien, et comme le dit toutes les sages-femmes qui ont accompagné des femmes qui ont accouché, ça donne une puissance en soi pour la vie entière, quand on a vécu ce moment-là en adéquation avec ce que l'on désirait, avec ce qu'on avait envie de vivre avec son corps, avec son accompagnant ou son accompagnante et la sage-femme qui était là, ça donne de la puissance. Mais peut-être qu'on n'a pas si envie que les femmes aient cette puissance jusqu'à la fin de leur jour.
Enfin, en tous les cas, ce qui existe montre que non seulement on n'en a pas envie, mais
et on fait tout pour qu'elles vivent
comme
ça.
Dans des conditions pires. Moi, j'ai vu les conditions hospitalières se dégrader au fur et à mesure de ma carrière. J'ai vu le travail augmenter, le nombre d'actes par personne augmenter. Et oui, bien sûr, et il y a aussi autre chose, c'est que je dirais que sur dont vous parlez dans votre livre, au moment de la préparation préparation à l'accouchement, où vous parlez de toutes ces femmes qui pleurent sur des fausses couches, sur tout ce qui était imprévisible, et cette espèce de préparation à l'imprévisible. Ce moment-là me fait dire que la sage-femme-là, elle a essayé d'agrandir la culture de ces intériorités de femmes qui sont le langage de la sororité. Cette sororité n'existe pas dans le monde masculin. Les hommes ne se parlent pas de leurs intérieurs. Je ne vois pas comment on peut les aider autrement qu'en leur apprenant.
Ce chapitre-là se termine par « C'était des paroles qui manquaient aux hommes ».
Voilà, c'est des paroles qui manquaient. C'est ça la sororité.
Alors on va entendre un homme, et pas n'importe lequel, c'est le choix de Marie Richeux. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Marie Richeux, Otis Redding. Ah.
I know. Ce serait très important que la mère puisse se confier. Je crois que c'est les heures qui suivent un accouchement sont très importantes. Vous savez qu'autrefois, on disait que des fées carabosses ou bonnes se penchaient sur le berceau et leur donnaient des dons ou leur donnaient des défauts. Eh bien, on peut dire, actuellement, je l'ai vu avec des enfants perturbés qui étaient tout à fait guérissables, donc ce n'étaient pas des perturbations à vie, eh bien, que ça avait commencé parce que la mère, qui est à un moment de complète réceptivité à ce que peut dire une femme qui sait, qui est la sage-femme, l'homme qui sait, le médecin, on lui a dit des choses totalement gratuites, parce que ça passait par la tête de cette dame à ce moment-là. « Oh, celle-là, elle vous en fera voir. Ah, ben, vous n'avez pas fini, ma pauvre dame. Ça y est, cet enfant est parti pour faire une enfant difficile, en trouble avec sa mère jusqu'à la fin. » Et que ce qu'elle a entendu, ça a fait mouche, et que c'est ça, le « là », enfin de la sonate, qu'elle a développée jusqu'à 7 ans de l'enfant. Ça donne le ton, et c'est cette femme-là qui en a la responsabilité. Tout a remonté, mais pourquoi avez-vous cru ce qu'elle vous a dit? C'est tout le travail d'une personne qui, lorsqu'elle était enfant, était un peu longtemps sous la dépendance, s'était dégagée, et pendant cette période-là, s'est remise sous la dépendance d'une personne qui savait... qui a été jusque dans son intimité pour l'aider, il faut dire, comme une maman son bébé. Une sage-femme avec la femme qui accouche, elle est vraiment...
Elle a un degré d'intimité énorme degré, avec cette jeune femme.
Elle a un pouvoir colossal. Ce qu'elle dit, ça va se réaliser, c'est prophétique. C'est vraiment la fée, bonne ou mauvaise.
Nous venons d'entendre successivement Otis Redding, puis vous avez sans doute reconnu la voix de Françoise Dolto à propos du rôle des sages-femmes à la naissance. C'était au micro de Monica Moureau-Bertin, c'est une archivina du 14 mars 1979. Comment réagissez-vous à ce que vient de dire Françoise Dolto? Ce sont des bonnes fées, les sages-femmes, ou ça peut être aussi des mauvaises fées qui disent quelque chose de définitif qui leur échappe?
Alors, définitif, ça n'est pas pour elle. Ça peut l'être pour la femme dans une immense vulnérabilité dans laquelle elles sont au moment de l'accouchement. Puisque l'accouchement, c'est un moment où on sort d'une carapace pour en prendre une autre, définitivement. Donc, on change de forme de corps.
Là, vous parlez de la mère.
Je parle de la mère.
La femme qui est en train de devenir mère.
Et selon l'histoire de ces mères, la vulnérabilité va être différente aux paroles.
Et donc Chantal Birman, en tant que sage-femme, vous êtes à la fois psychologue, psychanalyste.
Non, je suis sage-femme.
Bah oui, mais ça veut dire
métier,
ça aussi.
C'est ça le métier de sage-femme. C'est entendre ce qui se passe. C'est à ça que vous êtes obligé d'entendre.
Et ne pas parler.
Ah si, la sage-femme est justement celle qui n'est pas à distance. Elle est à côté. Elle ne fait pas faire l'analyse par la femme. Elle aide. Donc c'est pas le même mouvement. Donc là on est dans une aide de la femme. On n'est pas à distance. On est au contraire au plus proche possible. Oui, certaines paroles. D'abord, certaines sages-femmes sont, il faut complètement le reconnaître, des poufiasses hein, ou des méchantes ou je sais pas comment vous pouvez dire ça. Et elles peuvent avoir bon,
c'est
du
bizarre
plaisir
de vouloir donner la vie et d'aider à ce alors, bah, magnifique métier.
Partout, il y a
méchante.
Des gens qui sont pervers. Et il faut que je le reconnaisse aussi bien dans le métier de sage-femme que dans tous les métiers du monde.
Il y a aussi des gens qui deviennent Marie très Richeux. Mauvais parce qu'ils n'ont pas la possibilité de travailler dans des bonnes conditions.
Alors ça c'est tout le monde actuellement, à part les sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile aujourd'hui, et peut-être aussi en maison de naissance, toutes les autres sages-femmes sont maltraitées actuellement.
Il y a une grève en ce moment, en ce moment même.
Alors, j'ai juste oublié, je n'ai pas terminé, juste pour dire que oui, il y a à la fois des sorts qui sont jetés à la naissance. Il y a des sorts qui sont positifs
ou
négatifs.
Vous jetez des sorts aux enfants.
Quand on dit « Mon Dieu qu'il est beau, il est génial, il est très attentif, etc. » C'est un sort positif. Il peut y avoir eu des sorts négatifs. Quand ce que dit Françoise Dolto, je suis absolument persuadée que ça a existé. Elle ne l'a pas inventé, bien sûr. Donc il y a des sorts dans tous les sens. Toutes les femmes savent qu'elles sont vulnérables aux sorts à ce moment-là. Elles s'en rendent très vite compte parce que ça fait des échos à l'intérieur d'elles et c'est d'une violence inouïe. Alors, par rapport maintenant à la grève des sages-femmes, évidemment que je suis complètement d'abord fière de mes collègues et de moi-même, parce que j'en fais partie, d'avoir dit non aux aumônes gouvernementales, et quand je dis aux aumônes, encore, je suis bonne, voilà, c'est scandaleux. Bon, bah, moi, trois quarts temps en institution, je suis à 1400 euros de retraite, hein, donc c'est quand même bac plus, ça va être 6, là, et comme on redouble la première année, ça fera 7, puisqu'il faut réussir la première année de médecine, donc je trouve que c'est pas cher payé. Et puis, les conditions de travail sont de pire en pire, puisque à partir de la T2A, ce qui a compté au niveau hospitalier...
La T2A,
c'est la tarification à l'acte. C'est-à-dire, au lieu d'être payé sur ce qui se passe, c'est-à-dire un accouchement, c'est tant, on a changé, c'est-à-dire, tant que vous faites des actes, vous faites gagner de l'argent. Et si vous en faites moins, il y a moins d'argent. Ce qui coûte cher à l'hôpital, c'est le salaire des gens. Donc, pour faire des économies, on multiplie le nombre d'actes, le nombre d'accouchements, par exemple, le nombre de forceps, le nombre de césariennes, etc. Ça, c'est plus pour le privé, je dirais. On multiplie le nombre d'actes pour pouvoir avoir de l'argent et on diminue le nombre du personnel. Et au fur et à mesure de ça, le personnel hospitalier, alors bien sûr les sages-femmes, mais pas que à l'hôpital, sont obligés de multiplier les actes, donc de se déshumaniser dans le temps dans lequel ils ont affaire. Donc, ils rentrent et ils le sont obligés dans une technique. Donc, les burn-out sont successifs. Cet été, trouver des sages-femmes pour travailler dans les hôpitaux a été une folie. Les surveillantes, elles ont cherché dans tous les pays limitrophes pour faire venir des sages-femmes pour pouvoir assurer au niveau de la France. Donc, ça devient complètement impossible et on continue dans le même sens, c'est-à-dire au lieu de se poser la question de l'humanité et de la force de l'humain, on est toujours en train de se poser la question de la technicité et de la force des produits. Mais même si on va reconnaître que les produits sont extrêmement positifs, reste que quand même l'énergie pour pouvoir se battre, même dans une maladie, c'est la personne qui va le développer. Et il y a des gens qui sont à côté d'eux, qui peuvent les aider à faire ça et qui sont spécialistes de ce mouvement-là.
Alors, dans vos deux approches, aussi bien la vôtre, Chantal Birman, à l'intérieur de ce film magnifique qui s'intitule « À la vie » qui sort sur les écrans de Haute Pépin, et vous, dans votre livre « Méditation, réflexion romanesque sur la naissance, être vivant au monde, la transmission, l'héritage, Marie Richeux », vous abordez chacune à votre manière la thématique de l'intimité de la femme. J'ai eu l'impression, après avoir terminé votre roman, Marie Richeux, sage-femme, qu'il faut tout un travail à la fois psychologique, intérieur, méditatif, profond, un travail sur soi pour être mère aujourd'hui, en 2021. Alors que dans d'autres générations, c'était une injonction, c'était une habitude, c'était quelque chose qui était répétitif, ça faisait partie de la, entre guillemets, de la nature de la femme que de devenir mère. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est tout un travail d'être mère aujourd'hui?
Moi, j'aurais tendance à considérer que c'est tout un travail d'être au monde, en fait. C'est tout un travail de vouloir vivre les choses consciemment, avec poésie, quand c'est possible avec amour ou avec combat. Et donc, si je rencontre d'un travail, c'est de ce travail-là. D'ailleurs, je crois que j'écris ça. Je dis ce grand travail qui était le travail de vivre, le travail d'aimer, je pouvais enfin lui donner une forme. Et donc, dans ce grand travail de vivre, il y a peut-être le travail d'être mère dans ce livre Sage-femme. Mais il y a aussi toutes ces femmes qui sont artistes dans le livre et que je convoque, que sont Sheila X par exemple, ou Wassila Arras, ou des femmes qui sont historiennes et qui ont un autre travail qui est celui de la pensée. C'est vrai qu'il est beaucoup question du travail des femmes dans Sage-femme, leur travail humble de couturière, leur travail, puisque c'est le mot qu'on utilise quand une femme est en train d'accoucher et qu'elle donne naissance à un enfant, on dit qu'elle est en travail, et aussi le travail, je sais pas, des sœurs Augustines au 19e siècle qui brodent, ou des carmélites qui vont repriser comme ça à l'infini des chaussettes pour des enfants. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la notion du travail, probablement encore plus parce qu'elle est très maltraitée et qu'on vit dans une société contemporaine où le travail qui a du sens est un travail maltraité. Et peut-être que moi, vous appelez l'intimité. Moi, ça m'intéresse, la question de l'intimité. En effet, dans ce texte, l'intimité qu'on peut avoir avec un poème, Jour de lessive de Jacques Prévert, est un texte qui m'a vraiment prise très très fort, mais aussi des œuvres d'art, des petites œuvres d'art, des grandes œuvres d'art, un morceau de musique, une traduction des aveux de Saint-Augustin. Tout ça, ce sont des choses qui font partie de l'intimité. Alors, je réponds pas bien à votre question de savoir si c'est un travail plus qu'avant d'être mère en 2021. Je dirais que c'est un travail tous les jours d'être en vie, quoi.
Chantal Birman, sage-femme, c'est une femme sage. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'une espèce de médicalisation du corps de la femme quand sa grossesse vient à terme.
Est-ce que sage-femme est une femme sage? En tous les cas, elle a eu la chance, avec ce qui lui arrivait dans son métier, d'y réfléchir. Et de réfléchir au corps des femmes et de réfléchir à ces traversées, d'être à deux chez soi. C'est pas du tout évident, hein, par la schizophrénie, je connais pas autre chose que la grossesse. Hein. Donc on est dans des fragilités évidemment incroyables qui ne sont pas évaluées à la justesse de ce qui se passe. Si on analysait ce que vit une femme pour être enceinte, pour se laisser atteindre pour pouvoir avoir un enfant, la fragilité même de l'amour et des risques qui sont pris par les individus à chacune de ces étapes, je pense que on changerait au niveau des valeurs du social et on pourrait essayer de construire autrement ce qui devrait être les berceaux de l'humanité, c'est-à-dire tous les lieux où sont mis au monde les enfants et où sont mis au monde en même temps les familles, où sont mis au monde en même temps les mères et les pères.
Mais d'ailleurs, Michel Audin, médecin obstétricien, dit que si on s'intéressait beaucoup plus et beaucoup plus clairement à la naissance de la manière dont vous le décrivez, Chantal Birman, on s'intéresserait beaucoup plus clairement à l'humanité. Et voilà, c'est vrai que c'est très étonnant, une société qui prend si peu soin de ses naissances.
Des pères, nous parlerons une autre fois, puisque l'émission est là,
plaisir.
Se termine.
Mais ils sont très importants.
Mais il y a une bonne nouvelle, puisque vous savez que sur ce comité sur la petite enfance...
La commission
des 1000 jours est en train de travailler et que les pères ont désormais un congé paternité allongé. Il est de 28 jours.
Et plus ça s'allongera et plus ça changera.
À condition qu'ils ne fassent pas que laver la vaisselle, faire les courses, etc. Parce que là, ils vont être vite dégoûtés, ils vont avoir qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Il y a donc quelque chose à parler de la paternité et un milliard de fois plus que de leur faire faire la vaisselle. C'est pas que je veux pas qu'ils fassent la vaisselle, au contraire. Hein, je veux bien qu'ils fassent la vaisselle pour bien se rendre compte. Mais il y a autre chose, il y a l'éducatif au niveau de la paternité qu'il faut, qui commence et qui n'a même pas été entamé, même pas réfléchir de comment l'entamer.
Ce n'est qu'un début, nous continuons le combat. Merci à vous deux. Donc je rappelle le titre du roman de Marie Richeux, Sage Femme, qui paraît aux éditions Sabine Vespisser. Je rappelle votre livre, Chantal Birman, Au monde, ce qu'accoucher veut dire, une sage-femme raconte. C'est un livre de poche aux éditions Seuil. Et puis, vous êtes l'héroïne d'un film qui sort sur les écrans. Vous êtes magnifique, formidable. Vous savez même chanter Janis Joplin par cœur dans les rues entre deux accouchements. C'est un film qui s'intitule À la vie et qui est signé Aude Pépin.
Te souviens-tu des heures que nous passions ensemble dans la douceur du soir, habillés de candeur? Qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée? D'autres se sont amassées. Quelle est donc cette douleur étrange, comme un nouveau poids sur l'existence? L'insouciance était-elle que nous pensions ensemble soulever de nos mains le monde qui semblait éternel? Nos enfants seraient beaux, ils auraient devant eux de splendides chemins et à jamais le chant des oiseaux. Nous rêvions de tout dans tous les sens, sans souci. de l'existence. Nos corps alangués, jouissant de la douceur d'une soirée d'or. Ajouter à nos êtres cette part du monde qui, au fond, nous avait échappé. Nous courions en larmes dans tous les sens, à la recherche du poids de l'existence.
C'est avec le poids de l'existence d'Émilie Loiseau que nous allons nous quitter ce soir. Merci à toutes les deux. Je rappelle, Marie Richeux, le titre de votre livre, Sage-femme, édité chez Sabine Vespisser. Et vous, Chantal Birman, le film d'Aude Pépin, dont vous êtes l'héroïne à la vie et qui est dans toutes les salles en France. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian et bien sûr à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Après le prochain journal d'information, rendez-vous avec qui ? Avec Mishka pour son Very Good Trip.